nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Les jours passent. À la clinique laboratoire Riquin-Pontois, Serge est toujours aux soins intensifs. Il est toujours bombardé de rayons laser, courants électriques, de sang vitaminé, d'oxygène, et le cerveau a toujours sa sonde qui lui envoie à outrance des messages pour lui prouver qu'il n'est pas mort puisque les messages vont jusqu'à lui. Le corps a une belle peau légèrement rosée. La peau très souple et musclée, puisqu'on lui fait des massages intenses deux fois par jour. Le corps, les poumons, les cellules reprennent vie. Il ne reste plus que le cerveau qui ne réagit pas. Mais maintenant, c'est comme s'il était, pour ainsi dire, dans un coma. Un coma très profond, mais un coma. Le trou ne se voit plus, son visage est étendu et beau. Comme il n'a aucun souci, il n'a jamais été aussi beau et étendu. Les cheveux recommencent à pousser, les ongles aussi. Il urine un peu, les déchets des vitamines dans le sang. Il est toujours dans son sarcophage de verre, isolé des microbes et dans le secret absolu. Les jours passent. Le médecin, celui qui l'a opéré et qui a une prothèse en métal pour se maintenir droit, est malgré tout inquiet. Ne va-t-il pas rester toujours comme ça, comme un légume? Cela arrive des fois. Si dans un mois, il est toujours dans le même état, je demande de tout arrêter. Et le corps ira au retraitement sélectif. Prendre ADN, sang, un peu de peau, des organes bons pour garder et le reste en bouillie pour épater de chien. C'est dommage, un si joli jeune homme. Mais ce n'est pas la première fois que l'on recycle des gens. Rien ne se perd, J'ai ricain, je ne tout. Les jours passent. Une infirmière voit qui tourne un œil. Vite, elle sort de la chambre. Et va voir son chef. Il bouge, il est vivant. Comment? Son œil tourne. Bien, je viens. Et il y va. Voix qui bouge les yeux. Il dit à l'infirmière, je préviens le directeur, restez ici. Et il sort. Il retourne à son bureau. Prend son téléphone. Allô? Directeur, directeur, voici, ici le service des réanimations, service spécial, vous comprenez? Bon, d'accord, il bouge les yeux, oui, il bouge les yeux, bien, je vous attends. Et il retourne à la chambre. La sortie du bureau, il retourne à la chambre. Là, il attend le médecin. Directeur médecin. Enfin, il arrive. Il va voir Serge. Le regarde et voit qu'il bouge les yeux. Il se penche. Pouvez-vous parler? Les yeux se tournent vers lui. Il bouge les lèvres. Le médecin dit. Oui, ça marche. Ça marche. Ça marche pourvu que ça dure. Il va falloir une personne en permanence ici, lui parler constamment, lui forcer à parler, le nourrir de l'étage, ne pas le débrancher, ne le débrancher qu'après qu'il ait pris des forces. Toujours les massages, toujours le masser. Il faut me trouver une jeune fille douce pour s'occuper de lui. Allez me chercher ça. Et l'infirmière sort. L'infirmière est revenue avec une jeune fille de 22 ans, grande, blonde, très belle. Le médecin la regarde bien et lui dit « C'est parfait pour son réveil. » Vous vous mettez près de lui, vous lui parlez de choses simples, avec des mots simples et des phrases concrètes. Parlez-lui lentement. Souriez surtout et des fois, posez-lui des questions simples. Vous n'avez rien d'autre à faire. Et les choses se mettent en place. Au début, ce n'est pas facile, surtout pour le faire manger. Il ne sait pas avaler ni bien ouvrir la bouche. Puis, petit à petit, il arrive. Au fur et à mesure que les muscles de la bouche se fortifient. Les jours passent. Il reprend des forces et lui parle constamment de choses simples, de ce qu'elle a vu dehors. Lui sourit, lui parle doucement, puis petit à petit, il arrive à répondre, puis un sourire, à rire, à dire un mot. On le débranche, il donne à manger, des choses simples. Et en bouillie, comme pour les bébés. C'est vitaminé, bien entendu, à outrance. On lui a enlevé la sonde ordinateur du cerveau. Boucher le trou, c'est invisible. On lui fait faire des mouvements, marcher, bouger les bras, s'asseoir, etc. Il mange à table avec une cuillère. Il peut dire un mot ou deux et semble comprendre de plus en plus ce qu'on lui dit. Le médecin dit « Il faut qu'il finisse son apprentissage ailleurs. Nous allons le mener dans une maison à la campagne. Il sera mieux qu'ici. » Oui. Matin, les infirmières viennent dans sa chambre. On le réveille. Debout. On le lave. On lui donne à manger. On l'habille, mieux, mais en pyjama. Le médecin lui dit, nous allons vous mener dans une maison pour que vous puissiez mieux vous reposer. Ce sera à la campagne, c'est mieux. Et on le sort de sa chambre pour sortir de l'hôpital. Il est maintenu. Mais il arrive tout de même à marcher un peu. Puis, on le sort de l'hôpital. Mené en ambulance spéciale. Il a été mené en Pays de Loire, près d'un petit village, une ferme près de la Loire en retrait de tout, avec un grand pré. La ferme est une grande maison de pierre, avec tout le confort. Elle appartient à la clinique et à un personnel hospitalier et un personnel de ferme. Comme cela, les pensionnaires mangent des produits de la ferme. Il n'y aura pas de récupération. La ferme peut recevoir 5 personnes. Là, il sera seul. Au premier étage se trouvent les chambres. Chambres meublées, moitié campagne, yard, moitié hôpital. Le lit est d'hôpital, mais le reste, ce sont des meubles normaux de campagne, bois robuste et dur. Au deuxième étage, salle d'opération, de soins, bureau du médecin. Au rez-de-chaussée, salle à manger de détente. Commun, cuisine et lingerie. Il est mis dans une chambre. La maison de l'extérieur ressemble à une simple ferme. Le matin, au lever, douche, visite médicale, petit déjeuner, puis exercice physique, c'est-à-dire marche et gymnastique. L'après-midi, après un repas et un peu de repos, exercice intellectuel, test, parole, remise à niveau scolaire, lecture et visualisation des choses, puis détente, repas du soir, détente et coucher. La nuit, on lui met un appareil relié à un ordinateur qui a une sonde qui va au cerveau. Ça lui résume ce qu'il a fait durant la journée et il lui donne sa nouvelle identité, ce qu'il a été. Il va s'appeler Chevalier Eric, 16 ans, orphelin, parents morts d'accident de voiture, parisien, veut être médecin, vit chez son oncle à Paris, etc., etc. Aime le rouge, le vert, le marron, le rock, les films d'action, les BD, etc., etc. Les jours passent. Il se rétablit, se sert de son corps correctement, il parle, lit, a retrouvé toutes ses facultés mentales, a l'intelligence et la culture d'un enfant de son âge. Il a accepté de s'appeler Chevalier Eric et que ses parents sont morts dans l'accident de voiture et qu'il en est réchappé. Il veut être médecin plus tard. Et complètement guéri, il ne reste plus qu'à le mettre dans le monde. Pour ça, il lui faut un oncle. On lui en trouve un. On lui donne un appartement place de l'Étoile. L'oncle est un médecin. Il est médecin dans la clinique. Comme cela, on pourra le surveiller. Un matin, le médecin directeur de la maison, un homme grand, fort, cheveux blancs, va le voir dans sa chambre. Il frappe. Entrez. Il entre. Henri est assis à son bureau. Il se lève lorsque le médecin arrive. Restez assis. Le médecin s'approche de lui. Henri se rassoit. Médecin lui dit, en souriant, vous allez tout à fait bien. Maintenant, il va falloir retourner vivre dans le monde. La vie normale. Henri lui dit, la vie ici, ce n'est pas la vie. Le médecin sourit et lui dit, c'est la vie, bien entendu, mais elle est, comment dire, un peu suspendue, assoupie, pour des personnes fragiles. Mais dès qu'elles vont mieux, il faut qu'elles retournent à la vie active, plus près de la réalité, de la société. Vous comprenez ? Oui, je vis ici une vie calme, sans presque pas de soucis, et maintenant il faut que je vive comme tout le monde. Les vacances sont finies. Voilà, vous avez tout à fait bien compris. Vous avez eu un grave accident. Il a fallu que vous réappreniez tout ce que vous aviez oublié, que vous puissiez bien évoluer dans le monde, c'est-à-dire faire les gestes qu'il faut, savoir s'exprimer par des paroles ou les cris, comprendre les autres. Si vous ne savez pas bien gérer tout ça, on est handicapé et on a des ennuis. Plus on connaît le monde qui nous entoure, plus on est bien. Plus on s'exprime, plus c'est facile de vivre dans le monde. Avec vous, on est arrivé à vous redonner les qualités et le savoir que vous aviez d'un enfant de votre âge. Ce qui veut dire que vous êtes prêt à affronter le monde. Nous avons aussi attendu, c'est pour savoir si vous alliez évoluer et être comme tout le monde. Vous comportez comme une personne normale. Félicitations. Qu'allez-vous faire plus tard ? Eric lui dit, médecin. Le médecin lui dit, c'est une bonne chose. Votre oncle est déjà lui aussi. Et vous pourrez l'être. Ce qui fait qu'à vous deux, vous allez former une famille de médecins. Eric lui dit, c'est étrange, je ne me souviens pas du tout de mes parents, ni de leur physique, ni rien. Et mon oncle, le médecin lui dit, ça vous viendra, ce n'est rien. Dès que vous retrouverez vos affaires, les choses reviendront. Votre oncle va venir vous prendre cet après-midi. Déjà ? Une infirmière aide Henri dans sa chambre à préparer sa valise. Il y a quelques effets qu'on lui a achetés. Des sous-vêtements, chemise, pantalon, un pull, une veste en cuir, des chaussures, une paire de pantoufles, un nécessaire de toilette. L'infirmière, une grosse femme à cheveux blonds, voit qu'il est crispé. Elle lui dit,
pas content d'aller chez votre oncle?
Il lui dit, j'arrive même pas à me souvenir qui est mon oncle. Je me souviens de rien. Qu'est-ce que je vais faire? Elle lui dit,
ne vous faites pas de soucis. Ton oncle est un brave homme. Il est médecin à la clinique. »
Il lui dit, « Pourquoi n'est-il jamais venu me voir ?»
Elle lui dit, « Parce que les visites vous étaient interdites. »
Il l'embrasse sur la joue et lui dit,
« Allez, ne te fais pas de soucis. Et puis, si ça ne va pas, tu reviendras ici. La valise est faite. »
Elle lui dit,
« Viens, nous allons attendre dans le séjour. »
Elle prend la valise et ils sortent de la chambre. Et elle le met dans le séjour.
Assieds-toi.
Il s'assoit, lui met la valise à côté de lui.
Je vais te laisser. Tu veux quelque chose?
Non. Et elle le quitte. Il a l'impression que c'était déjà parti ou d'être entre deux voyages.
Un quart d'heure plus tard,
j'ai entendu une voiture qui vient de s'arrêter. Il va à la fenêtre. Il voit une grosse voiture noire qui s'est arrêtée devant le perron. Le directeur de la maison est sur le perron. Sort de voiture, un homme grand, mince, cheveux gris, lunettes dorées, visage sympathique. Il porte un costume gris. Henri se dit, c'est mon oncle. Il ne s'en souvient pas. Les deux hommes se disent bonjour et entrent dans la maison. Henri va s'asseoir. Il a le corps qui bat très fort. Il ne sait pas qui est cet homme. Il entend des pas dans les escaliers. Il a le corps qui bat encore plus fort. Des pas dans le couloir. Il a envie de pleurer comme un enfant. La porte qui s'ouvre. Il a envie de pleurer. Les deux hommes s'approchent de lui. Il se lève. L'homme aux cheveux gris lui dit, « Bonjour, petit, tu vas bien ?» Henri ne dit rien. Le médecin dit,
« Il est un peu ému, c'est normal. Voilà ton oncle Pierre. Tu le reconnais ?»
Eric fait non de la tête. Le médecin lui dit,
« C'est pas grave, ça reviendra. »
L'oncle lui dit, « Ne fais pas de soucis. Tu verras, ça te passera. Puis tu es avec moi. Tu as été très malade, tu sais. Mais tu vas partir maintenant. On va attendre un peu. Eric regarde le médecin. Le médecin dit,
je crois qu'il faut que vous le lanciez bravement dans la nouvelle vie. Tu es guéri maintenant. Et puis, ne te fais pas de soucis. Ton oncle est là, médecin. Et si ça ne va pas, il t'aidera. Et même te ramènera ici. Ton oncle et même, et moi-même, nous-mêmes, savons que tu as été très fatigué et que tu es fragile et que ce n'est pas facile pour toi. Nous allons c'est pouvoir t'aider. Eric lui dit, je ne me souviens pas de mon oncle. Le médecin lui dit, ça viendra petit à petit. Tu as perdu la mémoire à cause de cet accident qui a tué tes parents. Tu étais dans la voiture avec eux. Il lui dit, me souviens plus. Ça viendra. Allez, courage. Le médecin lui prend la valise. L'oncle prend à l'épaule et ils sortent de la pièce. Ils descendent les escaliers. Et au rez-de-chaussée, vont vers la sortie de la maison. On le mène vers la voiture. Le médecin lui dit, au revoir et bon voyage. Il entre dans la voiture. L'oncle entre aussi. Et il la met en route. Il s'est assis à côté de son oncle. Tout en roulant, l'oncle lui demande, « Ça va ?»«
Oui, ça va. »
L'oncle lui dit, « Tu verras, je t'ai préparé une belle chambre. »
Eric lui demande, « On va où ?»
L'oncle lui dit, « Tu te souviens plus ?»«
Non. » »«
À Paris, j'habite Place de l'Étoile, un petit appartement. » »«
Tu es marié ?»«
Non, veuf, depuis quelque temps déjà. » Et j'ai pas d'enfant. Je suis le seul membre de ma famille, de ta famille. Et toi, tu es le seul membre de la tienne. En quelque sorte, deux orphelins, ensemble.
Ça te fait peur?
Un peu, oui. Je me souviens de rien.
Cela viendra. Ne fais pas de soucis. Ça viendra. Puis s'il n'y avait pas, nous avons tout le temps pour faire connaissance.
Qu'est-ce que tu fais comme métier?
Je suis médecin. Je travaille à la clinique Jeune Tout-Pontois.
Moi aussi, je vais être médecin plus tard.
L'oncle sourit.
Eric s'est endormi, la fatigue, l'émotion. L'oncle le réveille.
Il lui dit, nous allons nous arrêter pour manger un peu. Tu as faim?
Je ne sais pas.
Il s'est arrêté devant une auberge. Ils sortent de voiture. Et vont rentrer dans l'auberge.
Décor campagnard. S'assoivent à une table, il y a quelques clients. Le maître d'hôtel vient leur donner les cartes. L'oncle demande à Eric.
Tu mangeais quoi?
Je sais pas.
Laisse-moi faire. De la salade lyonnaise, un lapin à la moutarde, gratin de pommes de terre, fromage et tarte aux pommes.
Eric lui dit, je ne pourrai jamais manger tout ça.
Donc lui dit, tant pis, tu laisseras.
Un quart d'heure plus tard, ils mangent. Tout en mangeant, Eric prend appétit. Eric demande, comment étaient mes parents?
T'en souviens plus?
Non. Tu montreras les photos? C'était très chic. Je devais beaucoup les aimer.
Père était très bien. Il était aussi médecin à la clinique.
Eric se dit, encore à la clinique.
Lui dit, je montrerai leurs photos.
Une fois le repas pris, l'oncle lui donne ses médicaments. Ce sont des calmants. Puis, ils sont partis. Ils arrivent à Paris la nuit. Mande.
Tu reconnais Paris?
Non.
Demain, ce sera plus facile. Il fera jour. Nous sommes arrivés. J'habite place de l'Étoile.
Arrêtez sa voiture devant un bel immeuble cossu du 19e. Sorte de voiture. L'oncle a pris la valise et va ouvrir la porte de l'allée. Ils sont entrés. Belle allée de marbre gris. Avec mur et verre, moulure, grand escalier de pierre avec belle rampe sculptée et un tapis rouge sur le marche. Lustre cristal, vieil ascenseur ouvert. Ils vont à l'ascenseur. Entre dans l'ascenseur.
Nous allons au dernier étage, 5e.
Ils arrivent au 5e. Il n'y a qu'une porte au centre du palier. Palier de marbre, lustre, commode Louis XV, en bois de rose. Donc lui dit, nous sommes seuls au cinquième. Il va ouvrir la porte de son appartement. Entre, éclaire, entre, Eric entre, ferme la porte. Grand hall d'entrée, carré, tapisserie grise, placard mural, commode Louis XV, une porte vitrée en face de la porte d'entrée. L'oncle pose la valise à terre. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Thank you.